Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
La France est devenue pour la première fois le deuxième pays exportateur d'armement dans le monde, selon un rapport publié lundi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Alors à quoi est dû ce succès industriel ? Quelle est la spécificité du matériel militaire français ? Quels sont les risques de redescente pour ce secteur dopé aux commandes et aux politiques publiques bien volontaristes ? Nous en discuterons avec l'économiste Julien Malizard et avec la politiste Catherine Aufleur. Mais avant cela, place comme tous les vendredis à l'actualité de la pensée économique, idée nouvelles, analyses originales et relectures parfois iconoclastes, Entendez-vous l'écho se penche sur la façon dont les regards sur l'économie évoluent. Notre invité du jour n'a pas hésité à s'attaquer à un monument du genre en explorant les possibilités offertes par une phrase quasiment devenue slogan : la propriété, c'est le vol. Elle redonne tout son sens à ces notions usées par les usages qui en ont été faits et toute sa force politique à la pensée de Pierre-Joseph Proudhon, avec la ferme intention d'en dépasser une lecture purement économiste. Alors quel est ce vol dont parle si durement Proudhon ? La propriété peut-elle seulement exister en soi ? Pourquoi peut-elle être vue comme l'instrument privilégié de la domination ? Et surtout, pourquoi relire Proudhon aujourd'hui ? Pour nous guider dans les méandres de la pensée de Proudhon et de ses critiques, car il y en a eu, nous recevons aujourd'hui Catherine Malabou, philosophe, professeure de philosophie à l'université de Kingston au Royaume-Uni. Bonjour et bienvenue Catherine Malabou.
Bonjour.
Si j'avais à répondre à la question suivante, qu'est-ce que l'esclavage, et que d'un seul mot je répondisse, c'est l'assassinat, ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir doté à l'homme la pensée, la volonté, la personnalité, est un pouvoir de vie et de mort, et que faire un homme esclave, c'est l'assassiner. Pourquoi donc, à cette autre demande, qu'est-ce que la propriété ? Ne puis-je répondre de même, c'est le vol ? Sans avoir la certitude de n'être pas entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée. J'entreprends de discuter le principe même de notre gouvernement et de nos institutions, la propriété. Je suis dans mon droit. Je puis me tromper dans la conclusion qui ressortira de mes recherches. Je suis dans mon droit. Il me plaît de mettre la dernière pensée de mon livre au commencement. Je suis toujours dans mon droit. Tel auteur enseigne que la propriété est un droit civil, né de l'occupation et sanctionné par la loi. Tel autre soutient qu'elle est un droit naturel, ayant sa source dans le travail. Et ces doctrines, tout opposées qu'elles semblent, sont encouragées, applaudies. Je prétends que ni le travail, ni l'occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété, qu'elle est un effet sans cause. Suis-je répréhensible ?
Catherine Malabou, vous proposez dès la première page de votre ouvrage de cheminer avec Pierre-Joseph Proudhon le temps d'une lecture très libre de son chef-d'œuvre, je vous cite là. Ce chef-d'œuvre, c'est évidemment « Qu'est-ce que la propriété ?» dont on entendait à l'instant un extrait lu par Inès Gender de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Pourquoi avoir voulu proposer cette relecture, Catherine Malabou ?
Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je m'intéresse depuis quelques temps maintenant à la pensée anarchiste qui a été recouverte par toute une tradition marxiste d'abord, et puis aussi par la critique facile qui en est faite, comme génératrice de chaos, sans avenir politique, sans avenir économique. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est aussi parce que les critiques de la propriété privée aujourd'hui, en particulier la pensée des communs, qui ne vient pas forcément uniquement de gauche, mais aussi de la pensée libérale, qu'on pense au travail de Elinor Ostrom, reviennent à Proudhon pour prendre dans cette pensée de l'anarchisme, justement, l'idée du partage des ressources, etc. Donc il m'a semblé intéressant de regarder, finalement, de me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce texte et que veut dire exactement la propriété, c'est le vol.
Alors justement, Catherine Malabou, nous l'avons dit en introduction, vous êtes philosophe. Votre thèse, soutenue en 1996, « L'avenir de Hegel, plasticité, temporalité, dialectique », a été dirigée par Jacques Derrida. En quoi ce parcours, précisément, vous permet de jeter un regard neuf sur la pensée de Proudhon? Et quel rapport, plus généralement, entretenez-vous avec l'histoire de la pensée économique?
Avec l'histoire de la pensée économique, si vous voulez, un rapport un peu lointain dans la mesure où je ne suis pas économiste, mais ce qui m'intéresse, c'est le devenir du capitalisme. Sa genèse d'abord, puisqu'il en est question dans le livre de Proudhon, c'est-à-dire comment expliquer le passage du féodalisme au capitalisme et quel est le point de vue de Proudhon par rapport à celui de Marx. Donc déjà l'origine du capitalisme mais aussi son avenir, puisque... Aujourd'hui, il est clair qu'à l'intérieur même du capitalisme, il y a des tendances qui s'affrontent. D'une part, le néolibéralisme acharné, qui est complètement dérégulé, etc., et qui n'a cure du changement climatique. Bon, et de l'autre, quand même, tout un souci qui est apporté par certains capitalistes eux-mêmes à la crise écologique et à des recherches quand même de mise en commun, c'est-à-dire de fin du capitalisme de la production. Donc il me semble qu'aujourd'hui, le cœur de la question économique, enfin telle que je la comprends, c'est quand même ces conflits qui habitent le cœur du capitalisme.
Et pour autant, vous dites dans votre ouvrage que c'est le poids de l'économisme qui a écrasé pendant des siècles le génie de qu'est-ce que la propriété. Pourquoi c'est cette lecture très économiste qui a été la plus répandue selon vous ?
Parce que Marx a clairement écrasé Proudhon. Il est certain que si on s'en tient à ce niveau purement économiste, le texte de Proudhon n'a pas la force du Capital de Marx. Il n'y a pas d'analyse de la valeur, il n'y a pas d'analyse du temps de travail. Il y a simplement cette idée que le capitaliste exploite le prolétaire, accapare la plus-value à son profit. Mais c'est assez faible, c'est vrai, du point de vue économique par rapport à Marx. La question qui est posée, si vous voulez, c'est que le texte de Proudhon, il y a évidemment une partie économique, mais le propos est essentiellement politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre économie et politique. Pour Marx, comme on sait, la politique est complètement seconde. Et les causes de la situation dans laquelle on est sont entièrement économiques, la politique n'étant là que comme un masque idéologique. Pour Proudhon, au contraire, l'État, le gouvernement, jouent un rôle fondamental dans l'économie. Et on décide d'une certaine façon, c'est-à-dire que les rapports sont inversés par rapport à Marx.
Et alors justement, ce lien entre politique et économie que cherche à construire Proudhon et qu'il fait en fait assez spontanément, ce lien, il est incarné par la notion de propriété qui est dans le titre de son ouvrage et qui structure toute sa thèse. Ce qui est intéressant, c'est de voir la définition qu'il en donne aussi, qui est en fait littéralement l'objet de l'ouvrage aussi. Le terme juridique, lui, est apparu en 1789. On reviendra sur ce moment décisif de la Révolution française. Il est défini beaucoup plus tard, un peu plus tard par le Code civil. Proudhon, lorsqu'il publie « Qu'est-ce que la propriété ?», on se situe en 1840, lui décide d'en apporter une interprétation, voire même une définition très, certes économique dans un premier temps, mais finalement très politique, Catherine Malabou.
Oui, parce que, effectivement, on rappelle pour nos auditeurs que la propriété privée est quelque chose qui apparaît avec la Révolution de 89, qui n'existait pas avant. Qui se trouve, comme vous dites, défini un peu plus tard dans le Code civil, je cite, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cette définition-là, elle apparaît dès 89 et met fin au système de propriété féodale. Or, pour Proudhon, si vous voulez, cette émergence est proprement politique. C'est une nouvelle expression. C'est très paradoxal, à la fois c'est une expression de liberté, désormais chacun pourra être propriétaire, tout un chacun, les pauvres comme les riches, nous avons tous droit à la propriété privée, et en même temps, c'est un phénomène d'exclusion, puisque tout le monde n'est pas propriétaire, très simplement. Donc pour Proudhon, il s'agit là vraiment d'un acte politique avant tout, qui caractérise l'esprit de la Révolution.
Et du reste, il fait une distinction assez claire entre propriété privée et propriété publique, et notamment entre propriété des moyens de production et propriété individuelle, la possession. Ça lui permet d'affiner finalement sa pensée et de mieux définir la propriété telle qu'il l'entend, à savoir la propriété comme vol.
Oui, la propriété comme vol, en fait, elle est économique, évidemment, dans la mesure où il s'agit de la façon dont, comme on dit tout à l'heure, le capitaliste s'approprie le résultat du travail des prolétaires. Mais c'est d'abord, je crois, c'est comme ça que je l'ai compris, le vol, c'est d'abord un vol de mémoire, c'est-à-dire la propriété est un acte inaugural, inauguré par la Révolution française, la propriété privée est un acte inaugural qui efface précisément la mémoire féodale, et fait croire à tous les citoyens français qu'ils sont égaux, qu'ils sont désormais potentiellement propriétaires, qu'ils sont désormais potentiellement individus privés et libres. Donc le vol n'est pas seulement le vol de biens matériels, c'est aussi un vol de mémoire.
Et c'est ça qui est intéressant, en fait, ce oui. vol, si on vous comprend bien, c'est aussi le vol d'une promesse, c'est la création d'une illusion de cet accès à la propriété.
C'est ça, l'accès à la propriété. Alors l'accès à la propriété, je pense que c'est important de le dire, n'est pas seulement l'accès à la propriété, c'est aussi et surtout l'accès à l'héritage. Hein, c'est-à-dire la manière de s'inscrire dans une lignée, dans une tradition, c'est-à-dire au fond remplacer l'aristocratie, remplacer la question du lignage, de l'hérédité nobiliaire par l'hérédité matérielle qui désormais serait en droit accessible à tous.
Et ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que ce vol fait de la propriété finalement non pas un sujet en soi, mais un acte. C'est quelque chose de performatif.
Voilà. Voilà.
Et ce dont on parle en termes de vol, c'est le vol de la force de travail collective.
Il y a la force de travail collective et par là aussi le vol, comme je disais, de cette mémoire féodale qu'en fait la propriété réinstitue.
Et c'est ça que Proudhon appelle le fameux droit d'aubaine, ce vol.
Voilà. Donc, en fait, la clé de mon livre, c'était ça. C'est-à-dire, je me suis dit, que veut dire, parce qu'à un moment, il dit, le synonyme de la propriété, c'est le vol, c'est la propriété, c'est le droit d'aubaine. Droit d'aubaine, c'est une expression qui n'existe pas. Bon, on dit en français la bonne aubaine, c'est-à-dire ce qui tombe bien, le bon avantage. Mais je me suis dit, pourquoi droit d'aubaine? Et en quoi est-ce que la propriété tombe bien? Alors j'ai regardé un peu et je me suis aperçu que le droit d'aubaine était en fait un droit médiéval qui caractérisait le droit qu'avait le seigneur de s'accaparer les biens des étrangers qui mouraient sur son fief, dans son fief. Puisque aubain en français veut dire étranger, qui est né ailleurs, alibinatus qui vient d'ailleurs. Et au fond, Proudhon fait clairement un parallèle entre les étrangers médiévaux, on va dire, et puis les prolétaires. C'est-à-dire qu'ils resteront toute leur vie étrangers à ce qu'ils produisent. Ils ne pourront pas en hériter. Voilà. Le paradoxe qu'il met en avant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on travaille pour produire quelque chose, mais ce qu'on produit, on n'en est pas propriétaire, précisément.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de continuité, finalement, entre le système féodal et l'après-révolution française, avec cette assimilation de l'aubain au prolétaire. Et ça, c'est une notion qui a structuré toute la pensée de Proudhon. Et c'est en ça qu'il dit qu'il n'y a pas eu de révolution.
C'est ça. C'est-à-dire que, tout en reconnaissant quand même, bien entendu, hein, le grand mérite de la Révolution française, il montre malgré tout que les points les plus saillants de la féodalité n'ont pas disparu. Et il y a une autre chose, je pense, qui est importante à dire, c'est que l'invention de la propriété privée à la Révolution allait avec le fait que désormais, le privé et le public seraient totalement séparés et que les fonctions politiques ne s'achèteront plus. C'est-à-dire que l'individu privé est privé, mais la fonction politique est purement publique. Puisque dans la féodalité, on achetait les charges. Et ça, c'est fini. Et Proudhon dit, c'est pas fini.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
Alors cette pensée du droit d'aubaine vue comme une domination, voire une exploitation, alors pour reprendre un terme beaucoup plus marxiste, a forgé finalement l'identité théorique de Proudhon, mais lui a valu aussi un certain nombre de critiques, et des critiques très importantes puisqu'elles viennent essentiellement de Karl Marx, qui qualifiait le raisonnement de Proudhon de niaiserie. Je crois qu'il y a un problème, Catherine Malabou, mais vous allez nous l'expliquer, avec l'idée de penser la genèse, justement, de la propriété. Ce que ne cherche pas à faire Proudhon, mais ce qui manque, selon Marx, à son raisonnement.
Oui, Marx dit cette proposition, la propriété, c'est le vol. Il la défend d'abord dans un texte ancien, La Sainte Famille, puis après il dit oui, c'est une niaiserie, c'est une tautologie, parce que pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait d'abord propriété. Il faut bien qu'on vole quelque chose. Voilà. Donc la propriété, c'est le vol. Il y a quelque chose qui ne va pas puisque ça présuppose l'existence de la propriété. Mais ce qu'il ne voit pas, justement, c'est que pour Proudhon, comme je le disais, la propriété est un acte inaugural qui efface ce qu'il y avait avant.
Le fameux oubli.
Le fameux oubli, qui bien sûr va transparaître. Voilà, Proudhon en voit les traces dans la subsistance de la féodalité. Mais c'est un effacement de mémoire. Au point que la majorité des Français, et je pense que ça c'est très actuel, a oublié son origine serve, féodale, aubaine. Hein, tout le monde pense, en France, on pense tous qu'on est depuis toujours citoyen, participant de la République, à égalité. En réalité, je pense que la majorité d'entre nous ont des ancêtres qui, effectivement, appartenaient à un seigneur. Et c'est ça que Proudhon dit. Enfin, propriété, c'est le vol. Oui, il y avait bien quelque chose avant, mais la propriété efface Et c'est ça que Marx ne voit pas.
Et Proudhon ne définit jamais ce quelque chose avant.
Il appelle ça la servitude. Il appelle ça la servitude. C'est-à-dire obéir à un maître.
Mais qui ne correspond pas à une mise en commun des terres ou à un espèce d'état idéal, utopique,
du tout. Ah non,
où
du
tout le monde se partageait les ressources disponibles.
Non, absolument pas. Mmh. Absolument pas.
Et c'est ça qui choque Marx.
C'est ça qui choque Marx.
Ce qui est curieux, parce qu'on pourrait penser que...
Mais c'est-à-dire que Marx est bien d'accord avec l'idée que la féodalité allait avec la servitude. Mais pour lui, ce qui l'intéresse, c'est la jeunesse du capitalisme à travers ça. C'est-à-dire comment, petit à petit, dans le féodalisme, il y a eu des phénomènes qui annonçaient déjà le capitalisme, c'est-à-dire la privatisation des communs, etc. etc. Ça l'intéresse plus que l'analyse de la domination. C'est-à-dire le rapport entre le seigneur et son serf, le seigneur et son aubin. Ce qui intéresse Marx, c'est qu'est-ce qui transpire de la jeunesse du capitalisme dans le féodalisme.
Oui, donc effectivement, il a potentiellement dû être un peu déçu à la lecture de Proudhon, pour le dire ainsi. Mais justement, on peut revenir aussi sur ce qu'est, qu'est-ce que la propriété. Oui. Et on a presque l'impression qu'il s'agit d'un manifeste, parce que Proudhon ne se contente pas de constater, finalement, ou d'élaborer cette définition-là de la propriété. Il élabore une vision de la société en cherchant une troisième voie, puisqu'il écrit « Entre la propriété et la communauté, je construirai le monde ». Alors, quelle est cette troisième voie, Catherine Malabou?
Alors, la propriété, capitalisme, communauté, c'est le communisme, hein, c'était le nom qu'il lui donnait. La troisième voie, ça s'appelle l'anarchisme. C'est-à-dire que à la fin du livre, il le dit, je suis anarchiste, et c'est la première fois qu'anarchiste est envisagé dans un sens positif, c'est-à-dire non pas fauteur de troubles et de chaos, mais porteur d'un nouveau projet politique, qui est effectivement la mise en commun et qui va donner quelques années, quelques décennies plus tard, la commune.
Et vous diriez que cette pensée très politique et presque concrète aussi de l'anarchisme a infusé et infuse encore aujourd'hui une pensée contemporaine de critique du capitalisme ?
C'est assez compliqué, oui, puisque comme je disais au début, les pensées du commun aujourd'hui empruntent beaucoup à Proudhon, y compris Elinor Ostrom emprunte beaucoup à Proudhon. Mais aucun ne va, peu vont jusqu'à défendre l'anarchisme. C'est-à-dire qu'on va prendre des choses à Proudhon, on va prendre cette idée de la mise en commun, de la commune, etc. Mais politiquement, on va quand même défendre l'idée qu'il faut un gouvernement, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'avais essayé aussi de faire dans mon précédent livre, c'est-à-dire pourquoi cette résistance à l'anarchisme, qui est, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, une théorie politique très sérieuse.
Et très concrète.
Et très concrète.
Juste pour revenir sur cette notion de commun, parce que ça peut étonner, c'est effectivement quelque chose de très moderne, qui est encore aujourd'hui beaucoup sollicité en tant que concept.
Oui.
Comment Proudhon se situe par rapport à cette idée-là? Est-ce qu'il la définit ou est-ce qu'il en parle en des termes plus vagues, on va dire?
Alors, il parle assez rapidement des ressources naturelles, mais il a une idée très très précise de ce qu'il appelle la mutualité. Pour lui, le commun, les communs, c'est la mutualité. Il voulait créer une banque du peuple, une mise en commun. Enfin, si vous voulez, c'est le principe des coopératives, de l'entraide. Il avait de l'autogestion. Voilà. Ça, c'est très, très concret chez lui.
Mais cela dit, c'est intéressant parce que ça interroge aussi sur le contexte peut-être de publication de Qu'est-ce que la propriété? À qui s'adressait Proudhon? Quel était son but? Est-ce qu'il avait vraiment envie de fédérer finalement une sorte de mouvement politique? Est-ce qu'il s'adressait justement à des esprits plus réfractaires, on va dire, à cette idée déjà de l'anarchisme? Quel était
Alors,
son but en publiant?
C'est très intéressant comme question. Il répond à une question. Il répond à une question de l'Académie. C'était le bon temps où l'Académie française posait une question à tous les citoyens et tout le monde était invité à répondre. La question était, le droit d'aînesse a été supprimé en 1790, c'est-à-dire réserver l'héritage à l'aîné. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà la question. Et Proudhon répond, la propriété, c'est le vol. Ce qui, apparemment, n'a aucun rapport, mais il veut montrer que, en fait, le droit d'aînesse subsiste au sens où tous les enfants de la République ne sont pas égaux. Et là, il dit, là, j'ai transgressé quelque chose. Je voulais répondre honnêtement à cette question. Et j'ai dit quelque chose, il a fallu qu'il soit défendu, hein, parce que l'Académie ne voulait pas publier son mémoire, parce qu'effectivement, c'est trop radical. Donc je crois qu'il voulait au départ répondre honnêtement, et puis je pense qu'il a été emporté par cette espèce d'élan révolutionnaire, génial en même temps, mais il a fallu qu'il soit défendu.
Et aujourd'hui, ce que vous montrez dans votre ouvrage aussi, c'est qu'il y a une continuité de cette idée, on le disait, du vol et surtout de cette fameuse illusion de faire croire qu'on va tous avoir accès à la propriété. Oui. Vous citez notamment les travaux de Rifkin et cette idée qu'avec ce capitalisme de réseau, finalement, on a tous accès aux mêmes ressources, que ce soit en termes de savoir, mais aussi économique. Voilà. Elle est fausse, selon vous.
Totalement, le capitalisme de l'accès, dit Rifkin, c'est-à-dire, regardez, aujourd'hui, mais les moyens de production, ça n'existe plus, aujourd'hui, il n'y a que du leasing, on loue des services, etc. Le capitalisme productif s'est terminé. En attendant, vous avez vu comme moi que pour acheter un appartement aujourd'hui, c'est la croix et la bannière, qu'il y a de plus en plus de difficultés à obtenir des crédits. Alors moi, je veux bien qu'on dise que le capitalisme, c'est le capitalisme de l'accès, mais en attendant, il y a des gens qui ont encore besoin d'acheter une petite maison, d'acheter une voiture, et d'après ce que je comprends, ça devient vraiment très compliqué.
Et qu'est-ce que provoquerait comme prise de conscience, on va dire, des travaux de Proudhon aujourd'hui ?
Ben, je ne sais pas si c'est seulement les travaux de Proudhon, mais écoutez un petit peu plus sérieusement la pensée anarchiste. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, nous sommes tous libres, mais pas au sens où le capitalisme nous le dit, mais où la résistance au capitalisme nous le dit. C'est-à-dire, nous avons la possibilité, c'est vrai, de nous auto-organiser, d'organiser des communes, d'organiser des systèmes d'échange, des systèmes de coopératives, de prêts, etc. Voilà ce qu'il faudrait, je pense, entendre.
Merci beaucoup, Catherine Malabou, d'être venue en studio aujourd'hui. Merci. Et d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'autrice de l'ouvrage « Il n'y a pas eu de révolution, réflexion sur la propriété privée, le pouvoir et la condition servile en France ». Tout cela est paru aux éditions Payot Rivage. C'est une référence à retrouver sur le site d'Entendez-vous l'écho. On se retrouve juste après l'incontournable Léo Ferré, qui s'est aussi attaqué à une formule anarchiste célèbre en son temps avec le titre « Ni Dieu ni maître » en 1965.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître.
Vous êtes bien à l'écoute d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch. Industrie de l'armement, une performance sous perfusion, c'est tout le sujet de notre table ronde du jour.
Les États-Unis annoncent un programme d'urgence pour l'Ukraine en utilisant les économies réalisées sur des contrats précédemment approuvés par le Pentagone. Ce programme comprend des munitions et des obus destinés à aider l'Ukraine à tenir tête aux attaques brutales de la Russie au cours des prochaines semaines.
L'Europe est devenue plus forte parce que nous savons tous l'importance d'avoir des dépenses de sécurité fortes et d'être en mesure d'assurer notre sécurité et de nous défendre. Regardez les investissements dans la sécurité et la défense. L'année dernière, ils s'élevaient à environ 280 milliards d'euros. Cette année, ils sont déjà estimés à 350 milliards d'euros. Il y a donc une augmentation. Nous devons dépenser plus, nous devons dépenser mieux, et je pense que nous devons dépenser plus pour l'Europe afin de consolider notre base industrielle de défense.
Dès février 2022, j'ai déclaré à tous les industriels que nous passions en économie de guerre. Je leur ai demandé des efforts, produire davantage et produire plus vite. Et c'est le chantier que j'ai confié au ministre des Armées dès ce moment-là. Nous avons, sur plusieurs segments qui étaient essentiels pour les Ukrainiens, fait le travail. Les canons César, qui sont déterminants pour la défense de l'Ukraine, nous avons multiplié leur production. Et là où nous avons livré quelques dizaines depuis le début du conflit, cette année, parce que nous avons multiplié les lignes, multiplié les cadences, nous allons produire près de 75 canons César. Ils iront tous sur le front ukrainien. C'est plus, beaucoup plus qu'on en a livré depuis le début. Nous avons multiplié par plus de 3 notre production des catégories d'obus et de missiles qui sont pertinents pour les Ukrainiens. Simplement, en effet, on a des limites. Et c'est vrai de tous les pays européens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On accroît nos capacités et nos cadences, mais surtout, ça met du temps à faire, parce qu'il faut créer de nouvelles lignes, de nouvelles structures de production. C'est pourquoi on a décidé qu'on allait les créer en Ukraine, parce que c'est plus proche du terrain, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. C'est ce qui a été décidé ici, avec l'ensemble des partenaires.
On entendait à l'instant des extraits des prises de parole de Joe Biden ce mercredi, d'Ursula von der Leyen il y a à peine un mois, et enfin d'Emmanuel Macron hier lors de son interview aux 20h de France 1. Et ces discours témoignent de la mise en place d'une économie de guerre, un contexte qui a joué en faveur, hein, assurément, de l'industrie de l'armement en général et de celle de la France en particulier, dont les ventes à l'international ont progressé de 47% entre 2019 et 2023. Alors comment expliquer le succès, hein, de ce secteur, et celui-ci est-il durable ? Pour en parler, nous recevons Julien Malizard, titulaire adjoint de la chaire Économie de la Défense de l'IHEDN, soit l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, et également avec nous, à distance, Catherine Fleur, professeure associée de sciences politiques au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Alors Julien Malizard, ma première question sera pour vous, et elle est assez large. Dans quelle mesure on peut imputer le succès de l'industrie française au contexte global diplomatico-militaire, on va dire?
Il y a effectivement une tendance, l'augmentation des budgets de défense a été dit dans un des extraits, au niveau mondial, en particulier en Europe depuis 2 ans. C'est une nouveauté, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Et donc ça crée une demande d'équipement et d'armement. On peut y répondre par l'industrie européenne. Et donc la France y participe. Alors ça, c'est un peu la dynamique depuis la guerre en Ukraine. Mais les bons chiffres français sont aussi à mettre en perspective, d'une part, à un effondrement de la part russe, ici, qui, compte tenu de la réorientation de sa production industrielle vers son effort de guerre, exporte moins.
Et les Russes dont on a pris la place, par ailleurs.
Exactement, ce qui est quand même une grande nouveauté dans le classement. Alors après, c'est à la virgule, hein, donc on est sur un étiage, un ordre de grandeur qui est à peu près similaire. Donc finalement, l'effondrement russe a bénéficié un peu à la France, mais aussi et surtout aux États-Unis, qui font plus de 1% aussi par rapport à la période précédente. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, les bons résultats français sont aussi à mettre en perspective par rapport à une dynamique passée. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a un certain nombre de grands contrats sur des équipements majeurs, des frégates, des avions de combat, des sous-marins, qui sont en fait les fers de lance, ce qui représente le plus dans les contrats d'exportation d'armement français, et qui en fait sont en cours de livraison aujourd'hui, mais ce sont des commandes passées.
Catherine Fleur, on le comprend, il faut remettre les choses dans leur contexte. On a compris grâce à Julien Malizard qu'il y avait à la fois des facteurs exogènes, on va dire, de la concurrence qui est un peu moins performante, ce qui nous permet, nous, de remonter. Mais est-ce qu'on peut dire de façon plus générale que c'est toute la politique d'aide à l'Ukraine au niveau occidental qui a provoqué un bouleversement de toutes les chaînes de production militaire, et ce, dans le monde entier ?
Oui, alors c'est certainement le facteur déterminant qui change, en fait, non seulement le volume des dépenses qu'on voit affectées à la défense en général dans beaucoup de pays, comme l'a dit Julien Malizard à l'instant, mais aussi la manière dont on parle et dont on justifie ces dépenses. Donc là, il y a un changement qui est majeur, puisque jusqu'à présent, bon, on pouvait voir certains pays qui augmentaient les dépenses de défense, mais enfin pas dans les mêmes, à nouveau pas dans les mêmes quantités, et pas avec une justification. Enfin, le président Macron parle de crise existentielle, de survie, etc. Donc là, on voit un contexte plus général qui pousse à d'ailleurs dans une manière donc qu'on avait plus ou moins déjà vu par pendant la période de la pandémie, en fait une justification vers plus d'interventionnisme. Bien entendu, là, on a l'expression économie de guerre qui vient en tête. Mais donc, c'est plus un activisme économique plus marqué de l'État. On a pu parler de retour du dirigisme, où l'État français, c'est pas le seul, dit que, bon, ben, là, finalement, les besoins sécuritaires exigent une reprise en main et un soutien fort de cette industrie.
Et ce discours, vous diriez, Catherine Hoffler, qu'il est plutôt consensuel, et c'est pour cela qu'il y a abondance, on va dire, de moyens mis sur la table?
Alors, consensuel, oui et non. C'est-à-dire que il y a, je pense, un consensus sur la nécessité de mettre plus qu'avant sur la défense, ça c'est à peu près clair, et je pense que c'est la première fois depuis le milieu des années 90 qu'on a autant parlé de l'expression des dividendes de la paix, je pense que, enfin, ou de la fin des dividendes de la paix en l'occurrence. Donc je pense que là il y a un élément important, mais en même temps parler de consensus, pour moi ce serait un peu exagéré, parce que je pense pas que au-delà de l'unanimité sur la réalité de la menace russe aujourd'hui, qui est forcément accord sur tous les points derrière. Enfin, on dit souvent que voilà, les désaccords sont dans les détails, et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est combien mettre, sur quel format de coopération, pour quels armements, etc. Donc, consensus sur l'idée générale, moins sur la manière d'y parvenir.
Julien Malizard, pour avoir un tableau, une vue d'ensemble, on va dire, concrète, on a vu que les contrats, en tout cas les accords, semblent s'enchaîner. La Croatie et les États-Unis ont signé mercredi à Zagreb un contrat en vue de la livraison de 8 hélicoptères à l'armée de l'air croate. On voit aussi qu'il y a évidemment la rencontre mardi de Joe Biden, qui a annoncé la signature d'un contrat prévoyant la vente à la Pologne de missiles air-sol à longue portée et de missiles RR à moyenne portée, c'est très précis. Tout cela pour un total de 3,5 milliards de dollars. Très concrètement, on parle de la guerre évidemment en Ukraine, mais qui a besoin d'armes aujourd'hui en Europe, Julien Malizard?
En fait, il faut replacer ça dans le contexte qui vient d'être dit. En fait, il y a eu, on va dire, une période à partir de la fin de la guerre froide de baisse généralisée des dépenses militaires en Europe. Et cette baisse a eu des effets majeurs sur le format des armées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et depuis 2014, même si globalement on peut voir qu'il y a une forme de découplage entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est, il y a des augmentations assez substantielles des budgets, et en particulier en faveur des équipements. Et la question ici, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y avait l'idée que, enfin, 2014, la menace russe était importante, mais il s'agissait essentiellement de se préparer. Mais 2022 montre que c'est vraiment une menace qui est fondamentale et qui nécessite une réponse majeure à plusieurs niveaux. Parce que déjà, les pays européens, le bloc occidental, s'est globalement aligné derrière l'Ukraine. Donc il y a des mécanismes de soutien qui ont consisté à donner des matériels, à livrer. Ça a été rappelé dans l'extrait que vous avez rappelé du président de la République. Donc il y a des choses qui ont été faites de manière très concrète par les pays européens. Donc en gros, il y a des dons. Il y a la reconstitution des stocks qui sont en parallèle, puisque les pays européens font toujours face à des menaces, évidemment. Et puis, par rapport à l'hypothèse de guerre de haute intensité, qui était globalement quelque chose qu'on n'imaginait plus depuis la fin de la guerre froide, ça nécessite des moyens quantitatifs importants. Là où, à partir des années 90, on a plutôt imaginé la guerre dans des formats expéditionnaires plutôt petits, avec des armées à très bon niveau technologique, très bien entraînées, mais avec une empreinte en termes de matériel et d'hommes relativement limitée. Et là, aujourd'hui, on voit qu'avec la guerre en Ukraine, c'est une guerre d'attrition, donc il faut de la masse. Et donc, il y a une reconstitution de cette masse dans tout un tas de domaines qui, historiquement, n'étaient pas ceux qu'on voulait mettre en avant dans cette logique expéditionnaire. Donc, l'artillerie, vous parlez des missiles, et en fait, on est effectivement dans les systèmes de défense sol-air, dans plein d'autres domaines, où, en fait, on a relativement vu des baisses en termes de stock pour mettre l'argent ailleurs, plutôt sur les capacités de projection. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il faut faire à la fois ses capacités de projection et reconstituer la masse dans cette optique de guerre de haute intensité.
On pourrait presque parler d'un changement de doctrine, en fait.
C'est un changement de paradigme qui consiste à dire l'éventail des menaces s'est élargi. de plus en plus, dans un contexte où même les menaces deviennent de plus en plus, enfin, historiquement c'est terre, air, mer, et aujourd'hui on a de nouveaux espaces d'affrontement dans le cyber, dans l'espace informationnel, enfin, on ne fait qu'augmenter la surface dans laquelle on va s'affronter. Et ça nécessite des moyens spécifiques à chaque fois.
Et alors, avant de parler du cas spécifique de la France, il faut tout de même faire preuve d'une certaine modestie et souligner que les États-Unis restent les plus gros exportateurs. Entre 2019 et 2023, 55% des importations en Europe provenaient de ce pays. Et c'était un chiffre en hausse de 35% par rapport à la période de 2014 à 2018. Catherine Hoffler, est-ce que cette toute-puissance américaine et le fait que l'Europe est importatrice de matériel d'armement américain est un signal d'alarme, devrait inquiéter? Est-ce qu'il y a des réactions vis-à-vis de ça?
Alors, juste, en fait, pour réagir par rapport à ce qui vient de dire aussi, parce que ça me semble vraiment très, très important. Enfin, on revient, donc comme Julien Malizard l'a dit, en fait, on ajoute de nouveaux domaines, mais on en redécouvre aussi. Enfin, là, quand on parle des besoins actuels, on parle beaucoup de missiles anti-chars. Bon, bah, le missile anti-char, c'était traditionnellement le missile utilisé guerre froide, etc. D'ailleurs, un segment de missile sur la moyenne portée et la longue portée, où en fait, les Européens avaient beaucoup coopéré pendant assez longtemps, enfin de manière précoce aussi, et avec pas mal de succès aussi à l'export, et finalement qu'ils avaient un peu laissé tomber, parce que c'était moins, enfin par rapport au grand programme de coopération, notamment franco-allemand, enfin sur un axe franco-allemand fort, finalement on a vu beaucoup de pays européens acheter américains, acheter israéliens, par exemple, sur les antichars. Donc là, voilà, c'est un peu la transition avec votre autre question. Est-ce que c'est affolant? Non, parce qu'en fait, c'est pas nouveau. En fait, les Européens ont une tradition d'achat de matériel américain. Et bon, j'imagine qu'on va parler aussi de cette question ensemble, mais on peut aussi simplement déjà remarquer que depuis le début de la guerre, hein, quand on dit voilà, les Européens doivent faire plus, etc., on est quand même à je crois, environ 60% des achats européens d'armement viennent des États-Unis. Il me semble qu'environ 75% sont extra-européens, mais 60% environ des États-Unis. Donc, c'est assez massif, mais c'est pas neuf.
Oui, effectivement, je crois que c'est 75% des équipements militaires achetés par les Européens ont été produits par des non-Européens, et dont 68% par les États-Unis. Donc effectivement, c'est important, mais sans doute habituel. Cela dit, face à cela, il y a comme une volonté de structuration de la réponse, et notamment au niveau européen, puisque l'Europe cherche à se libérer de cette dépendance-là, notamment au moyen de la nouvelle stratégie pour l'industrie de défense qui a été présentée le 5 mars 2023 par la Commission européenne, donc très récemment. Et cette stratégie-là, il y a notamment un volet de soutien à la production de munitions pour renforcer la production à destination de l'Ukraine. Ce nouveau mécanisme, ce nouveau volet, finalement, Christine Hoffler, ça vous semble être une réponse crédible?
Je vais juste me permettre de rectifier mon prénom, qui est Catherine.
Pardon, excusez-moi.
Pas de problème. Alors, c'est une réponse, en fait, que l'Union européenne avait déjà dans les tuyaux depuis un certain temps. C'est-à-dire pas avec autant de moyens mis sur la table, ni pouvant compter, en fait, sur autant de soutien des États membres, même si le soutien des États membres aujourd'hui encore est à nuancer. Mais en fait, cette idée que l'Union européenne, en fait, est le canal pourrait être le canal privilégié des États européens pour coopérer sur la défense en plus de l'OTAN. Ça, c'est, on le retrouve en fait déjà dans les années 2010. On en parle dès les années 2013, en fait. Il se passe déjà quelque chose à ce moment-là. La Commission européenne met en avant des suggestions. D'ailleurs, dont une suggestion qui est celle un peu sur le mode de l'OTAN, que l'Union européenne pourrait être le propriétaire d'équipements à usage duel. Mais bon, ça c'est mis de côté par les États qui refusent ça, mais l'Union européenne propose, enfin la Commission européenne, sa deuxième suggestion, c'est en fait de coopérer, d'investir ensemble sur de la recherche et développement. Et ça, par contre, les États membres se disent, bon, bah, ça, finalement, pourquoi pas, parce que c'est, les sommes sont pas astronomiques. Et en fait, ils s'accordent. Et ça, ça mènera pas mal d'années plus tard au Fonds européen de défense. Donc, en fait, on a déjà, avant 2022, des instruments qui sont proposés par l'Union européenne, non pas dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, qui est intergouvernementale, mais la Commission européenne met en place des instruments sur la base des traités, des articles liés à la politique industrielle de défense, et elle met en place ces instruments en fait en disant l'Union européenne va pas se substituer aux États, et d'ailleurs va pas se substituer à l'OTAN non plus, mais par contre, elle peut être une facilitatrice budgétaire. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire que là, l'UE propose encore d'aller plus loin vers là, et c'est vrai que la situation actuelle pousse les États à accepter volontiers certaines sources de financement qu'ils avaient pu refuser avant. Donc là, le contexte, on va dire, est bénéfique pour l'Union européenne, est bénéfique pour le côté Commission européenne, qui en fait peut pousser des projets qu'elle avait déjà avant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Aliette Ovine.
Alors, on l'a compris, hein, la France n'est pas seule sur la scène internationale du commerce de matériel militaire, ce qui ne l'empêche pas d'y faire bonne figure, on l'a dit. Elle est devenue le deuxième exportateur d'armement dans le monde. Alors, qu'est-il arrivé à ses concurrents, et particulièrement à la Russie, dont on a pris la place, Julien Malizard? Est-ce que, tout simplement, c'est l'excellence du matériel livré qui a convaincu les acheteurs?
Il y a effectivement plusieurs aspects qui sont importants. C'est cette tendance à l'augmentation des budgets que j'évoquais tout à l'heure, qui fait qu'il y a une demande qui est adressée en particulier pour des matériels français. Les matériels français, ils sont vus comme des matériels en gros de très bon niveau en termes technologiques. Et la France est vue comme un fournisseur fiable pour un certain nombre de partenaires pour fournir des matériels qui sont globalement en utilisation relativement libre, peu contraint. Donc une forme d'autonomie forme d'avantage comparatif de la France, c'est-à-dire qu'on vend les matériels et on en fait à peu près ce qu'on veut une fois qu'on les a vendus. On s'assure évidemment que...
Ce qui n'est pas le cas de la concurrence, c'est
plus difficile. Ce qui n'est pas toujours le cas de la concurrence, notamment américaine. Et ça, c'est vrai que c'est quelque part une forme d'avantage comparatif de la France, capacité de vendre des matériels, mais en laissant un plein usage aux clients de ce matériel-là. Et donc la France, elle surfe un peu sur le fait que les matériels qui sont actuellement proposés sont des matériels qui sont à peu près à mi-vie, donc éprouvés au combat. Donc les armées françaises les ont utilisés avec des matériels qui sont considérés comme donc fiables de ce point de vue-là. Et donc ça donne confiance au matériel. Et que cela soit le matériel et puis après tout ce qui va avec, c'est-à-dire le soutien, la maintenance, c'est-à-dire qu'on vend des matériels, mais des matériels sont de plus en plus utilisés, donc c'est le package qui va avec, en fait, qui est considéré comme étant fiable là aussi. Là où, effectivement, par rapport à la Russie, qui est le point un peu de bascule dans les chiffres du CIPRI, c'est qu'en fait, la Russie, elle a réalloué son outil de production vers les besoins de son conflit en Ukraine. Donc ça part des exportations à chuter, et même si on regarde très précisément les chiffres de 2023, puisque les chiffres du CIPRI, c'est sur des périodes de 4 ans, mais si on regarde vraiment 2023, c'est 3 fois moins d'exportations par rapport à 2020. Donc en fait, il y a vraiment une baisse assez substantielle des exportations russes, là où en fait la France, elle est vraiment sur la dynamique des 10 dernières années qui est extrêmement favorable.
Alors justement, Catherine Hoffler, j'aimerais qu'on s'intéresse aux conditions de production finalement de tout ce matériel-là. Est-ce que le succès de l'industrie française de l'armement s'explique par une coopération étroite et surtout historique entre industrie et État? Est-ce qu'on peut parler d'une industrie finalement très dirigée?
Alors, c'est sûr que il y a des relations très fortes, institutionnelles, organiques, puisqu'on voit bien une circulation aussi des élites dans les hautes sphères de l'État et, enfin, les hauts corps de l'État entre industrie de l'armement et les services de l'État eux-mêmes. Donc, on a pu parler je voudrais pas me tromper, mais il me semble que Jean-Paul Hébert parlait de régulation administrée pour parler en fait de cette cette manière, en fait, qui a bien entendu changé depuis la fin, enfin depuis les années 80, puisqu'on a aussi eu toutes des vagues de privatisation, etc. Donc on n'est pas non plus sur le modèle de l'arsenal tel qu'on a pu le connaître. Mais c'est sûr qu'en France, contrairement à certains autres États, on a une proximité des cadres dirigeants entre le ministère de la Défense et les industries, qui facilitent les échanges, qui créent aussi de la confiance. Donc voilà, c'est une particularité. Je ne dirais pas non plus que la France est le seul pays où on a ces relations-là, hein, loin s'en faut. Mais c'est sûr qu'en France, c'est encore relativement non seulement institutionnalisé, mais aussi revendiqué.
La principale leçon de l'Ukraine, ça a été deux choses finalement qui sont importantes et qui sont positives pour nos PME. C'est la première, un retour des banques, je dirais un retour des banques qui montrait quelques réticences à financer le secteur de l'armement. Le deuxième effet positif, c'est exactement comme les masques pour le Covid. Donc là, on l'a vu pour la grippe aviaire en 2008, on l'a revu pour le Covid. Et en 2008 et en 2020, on n'était pas prêt puisqu'on n'avait pas de stock stratégique. Et le ministère de la Défense est bien conscient depuis le 24 février qu'il faut et qu'il faudra constituer des stocks de matériel pour pouvoir imaginer un conflit haute intensité, pour pouvoir durer dans le conflit haute intensité. Ça veut dire des commandes, une planification des commandes, et donc potentiellement de la visibilité pour nos PME. Et la visibilité, c'est ce dont on a besoin pour piloter nos entreprises.
Julien Malizard, ce qu'on entend là à travers ce témoignage de Ludovic Ouvry, président du cluster Eden qui regroupe des PME de la défense, il s'exprimait en juin 2023, c'est que certes, et on l'a compris dans ce que vous nous avez dit, l'industrie s'est adaptée à l'augmentation des cadences, il y a eu un changement de paradigme, mais est-ce que finalement cette industrie risque de ne pas pâtir sur le moyen, voire long terme, de cette précipitation et de ce manque de visibilité comme on l'entendait ?
En fait, il y a une visibilité qui est offerte, au moins dans le cas français, par la loi de programmation militaire, qui est un instrument budgétaire qui est voté sur plusieurs années. La loi de programmation militaire actuellement couvre les périodes 2024 à 2030. C'est 413 milliards d'euros qui sont alloués au secteur de la défense. Tout ne va pas aux équipements, évidemment, mais...
16 millions, je crois, aux équipements.
Pardon ?
C'est 16 millions, non, pour les munitions.
16 millions, ouais. Alors il y a une toute petite partie pour les munitions, mais effectivement, en fait, après... La part des équipements là-dedans reste quand même assez substantielle puisque ça va de la dissuasion jusqu'aux équipements individuels. Donc c'est extrêmement large et ça permet aux industriels d'avoir de la visibilité sur la demande qui sera adressée par l'État français. Plus les commandes qui sont passées à l'exportation, ça donne une forme de socle aux industriels sur l'état de la demande. Mais il y a un risque qui est lié spécifiquement à la guerre en Ukraine, c'est une forme d'incertitude sur la demande malgré tout, au sens où la guerre en Ukraine, en particulier dans des filières très spécifiques, vous avez évoqué les munitions, mais il y a plein d'autres domaines, où la guerre se termine demain, la demande qui sera adressée en termes de matériel sera probablement plus faible. On peut penser aux munitions, mais aux missiles, à l'artillerie, etc. Donc il y a un risque pour les industriels, c'est de se retrouver à horizon moyen et long terme, avec un outil industriel qui est en surcapacité par rapport à la demande qui est adressée. Et effectivement, comme ça a été dit par Catherine tout à l'heure, il y avait vraiment une forme de dirigisme. Et l'État est le seul client, en fait. Donc, s'il n'y a pas de commande, l'industriel va se retrouver ici dans une situation avec des capacités excédentaires qu'il ne saura que faire. Donc, c'est quelque part une forme de perte dans son modèle d'affaires qui risque d'être délétère dans un contexte où, on l'a bien vu aussi avec les chiffres du CIPRI, il y a une concurrence internationale qui est très forte. Donc, il y a vraiment un besoin de visibilité. De garantir un carnet de commandes relativement lisse dans le temps, parce que, ça se rajoute à un élément qui est les cycles des matériels sont des cycles extrêmement longs. Quand on produit un matériel, ça prend des années. Là, la France vient de. Il y a un contrat qui vient d'être accepté entre la France et les Pays-Bas sur des sous-marins. L'accord, semble-t-il, prévoit que les deux premiers seront livrés à horizon 10 ans. Donc, ça, évidemment, sur des matériels aussi complexes, ça prend du temps. Donc, ça c'est la production, mais en amont sur le développement, ça prend aussi énormément de temps. Les matériels complexes, ça prend entre 10 et 20 ans. Donc forcément, il y a l'enjeu de la structure, de l'outil de production est fondamental pour les industriels dans ce contexte où le cycle de production et de développement est super long, mais que le client est uniquement l'État.
Et on comprend bien effectivement que le temps de l'industrie, car ça reste une industrie, n'est pas nécessairement celui de la guerre. Catherine Neufleur, vous vouliez réagir ?
Oui, pour compléter ce que disait Julien, je pense que c'est vraiment très important effectivement de voir que c'est un temps de production, enfin de développement en amont, etc., vraiment très très long. Et là, quelque part, c'est quand même important de noter que qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, mais on paye quelque part le prix d'années d'une libéralisation, alors à prendre avec des pincettes, parce que bien entendu, en France, on n'a jamais totalement libéralisé ce secteur, mais de libéralisation dans le sens où, ben, quand on dit de plus en plus, ben, ce qui est important, c'est de faire baisser les coûts, on va privatiser, on va externaliser l'expertise, on va avoir moins d'ingénieurs, par exemple, en interne à la DGA, mais on va reposer plus sur l'expertise des entreprises, etc. Bon, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, quand d'un coup, de manière urgente, on a besoin que ces entreprises produisent plus, soient capables d'innover, bah, là, on se rend compte que, bah, y a plus les compétences en termes de ressources humaines, que beaucoup des savoir-faire, bah, on a pu les perdre. Donc voilà, c'est aussi ça, en fait, qu'on est en train de payer. À nouveau, qu'on trouve ça bien ou non d'avoir coupé les budgets de défense à la fin de la guerre froide est une autre question. Mais là, je pense que c'est vraiment, il faut aussi comprendre ça dans la durée.
Et qu'est-ce qui pourrait provoquer une prise de conscience sur la nécessité de refonder finalement le modèle ? C'est pas qu'une question de budget, effectivement.
Ben alors, ça, il y a aussi une vraie question. Bon, il y a une question de faisabilité, mais il y a aussi une question politique. Est-ce qu'on veut absolument, enfin, sans dire qu'il ne faudrait pas être capable de soutenir l'Ukraine. Là, bien entendu, ça, c'est pas du tout le propos. Mais l'expression, par exemple, économie de guerre, outre le fait que, bon, ça n'a pas vraiment été réalisé, mais dans son principe, on a pu quand même accueillir cette expression ou ce retour de cette expression et de tout ce que ça amène avec soi, en fait, avec un peu de résistance ou de critique quand même, parce que ça veut dire... enfin, c'est pas uniquement de l'argent qu'on va mettre pour aider l'Ukraine et que, par ailleurs, tout va bien se passer. Enfin, se pose des questions de priorité. Et on le voit typiquement là, en ce moment, par exemple, au niveau européen, c'est assez clair que bon bah voilà, l'argent va aller vers la défense pour des raisons légitimes, mais typiquement les initiatives de tout ce qui est environnemental, bon bah il y aura moins de sous en fait. Donc je pense que je voudrais juste dire ça parce qu'il faut prendre un peu le débat avec des pincettes. Il s'agit pas de dire bon bah maintenant il faut aller à 100% voire à 200%. À tout faire pour qu'on ait des lignes de production prêtes et pour toujours en fait. Donc là plutôt les débats c'est en ce moment c'est comment arriver à effectivement avoir une capacité de production plus élevée parce qu'on en a besoin et en même temps penser sur le plus long terme comment est-ce qu'on conserve certaines compétences dont on a besoin, comment pour d'autres on fait de la coopération, comment pour d'autres on peut acheter, etc., etc.
Un grand merci à vous, Catherine Neufleur et Julien Malizard, de nous avoir expliqué les ressorts de l'industrie française de l'armement. Il est désormais l'heure de retrouver la chronique de Dominique Méda.
Pourquoi certains pays européens parviennent-ils mieux que d'autres à assurer l'égalité entre hommes et femmes ? De très fortes différences persistent dans la manière dont hommes et femmes accèdent à l'emploi et prennent en charge les activités domestiques et familiales. Comment l'expliquer ? La sociologue Anne-Marie Dawn-Richard a consacré un article passionnant à cette question. Elle compare de façon très approfondie trois pays, le Royaume-Uni, la France et la Suède, pour montrer comment et pourquoi, soumis au même modèle de la femme épouse dans les années 50, ils ont déployé dans les années 70 des politiques radicalement différentes dont l'empreinte est encore visible. Dans les années 50, deux théories encadrent le possible exercice par les femmes d'un travail. La théorie des deux sphères et celle du salaire familial. Hommes et femmes sont appelés chacun à exercer leurs compétences dans deux sphères différentes, d'égale dignité, le foyer pour les femmes, le travail pour les hommes. Le salaire de ceux-ci doit leur permettre de nourrir leurs femmes et leurs enfants. Dans les trois pays, les femmes ont tendance à se retirer du marché du travail lorsqu'elles se marient et deviennent mères. Des mesures publiques encouragent l'inactivité des mères. Au Royaume-Uni, l'interdiction du travail des femmes mariées et le refus de toute intervention de l'État dans la sphère privée, parce que la famille doit échapper à toute emprise de l'État. vont rendre l'accès des femmes à l'emploi difficile, ce dont les années 1970 porteront encore la trace. Alors que le congé maternité restera longtemps non rémunéré, les femmes accéderont tardivement à l'emploi et largement à temps partiel. Longtemps, les féministes britanniques, loin de réclamer une insertion plus solide des femmes sur le marché du travail, demanderont des allocations pour les mères, permettant à celles-ci d'amoindrir la dépendance à leur mari. En France, l'héritage du Code civil qui a organisé l'incapacité civile des femmes est lourd. La notion de chef de famille ne disparaîtra que dans les années 1970. Les femmes ont certes le libre choix de travailler uniquement si elles se révèlent capables d'assurer en même temps leur rôle principal, s'occuper du foyer et des enfants. L'imposition conjointe est désincitative, des allocations soutiennent les familles où les mères sont inactives. L'État français, profondément nataliste et familialiste, protège les mères travailleuses. Ce familialisme restera longtemps prégnant, l'allocation de salaire unique n'étant par exemple supprimée qu'en 1977. En Suède, le couple Myrdal va contribuer à organiser un basculement fondamental. Les deux économistes soutiennent que si la Suède veut continuer à avoir des enfants, l'État doit les y aider en assurant une part de la charge financière grâce à des allocations. Par ailleurs, ils soutiennent que les femmes ont deux rôles, un rôle de parent, mais aussi un rôle de travailleuse, comme les hommes. Les femmes ont accédé au droit de vote dès les années 20 et vont bénéficier d'allocations de maternité et de droits propres. Dès lors, dans les années 70, l'émancipation des femmes sera organisée très rapidement. Une délégation à l'égalité des droits entre hommes et femmes est mise en place dès 1972. Les grilles de salaires différentes sont supprimées, de même que l'imposition séparée, ce qui est vu comme un signal très fort, étant donné la forte progressivité de l'impôt sur le revenu suédois. Des congés parentaux ainsi qu'un vaste plan de développement de l'offre de mode de garde sont mis en place. Un ensemble de politiques sociales et de conceptions différentes du rôle de l'État ont donc encadré différemment l'intégration des femmes dans le salariat dans les trois pays. Elles ont déterminé le degré et la vitesse de sortie du male breadwinner model, le modèle de monsieur gagne-pain et madame au foyer, qui n'est désormais plus vraiment en vigueur nulle part dans l'Union européenne, même si les pays du Sud présentent encore de fortes différences en matière d'emploi et de prise en charge des tâches de care entre les hommes et les femmes. La Suède est aujourd'hui le pays où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé et la prise en charge des activités domestiques et familiales la plus égalitaire.
Merci Dominique pour vous réécouter. C'est sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment ou sur l'application Radio France. On se quitte avec Broken English, interprété par Marianne Faithfull en 1979. Merci à Léa Sabourin qui a programmé cette émission et à Inès Gender qui l'a préparée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Anouk Millot, Tina Young, Léopold Thiévin, Diane Devancet et Laurence Jeunepin. Merci à Françoise Le Floch et Florent Bujon pour la préparation et la mise en onde de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture. Il suffit de taper Entendez-vous l'écho sur votre moteur de recherche. Rendez-vous aussi sur l'application Radio France si vous préférez la balado diffusion.